Ce dimanche-là, comme beaucoup d'autres, tout est calme à Salisbury. Dans cette petite ville paisible du Wiltshire, des gens se promènent et les enfants jouent dans les parcs. Mais soudain, un homme âgé s'effondre sur un banc. À côté de lui, une jeune femme perd conscience. Policiers bouclent la zone. À ce stade, ils pensent avoir affaire à une simple overdose d'opioïdes et commencent leur enquête de routine. Mais l'inspecteur de police remarque que l'agent s'étant rendu au domicile des victimes ne va pas bien. Il se plaint et dit avoir une vision trouble et il semble désorienté. Sur le trajet, son état s'empire. Hallucinations, vomissements, vertiges. Il rejoint à l'hôpital les deux victimes dans un état critique. L'inspecteur comprend que ce qui se joue dans ce parc dépasse largement son périmètre. Il n'est définitivement pas devant un fait divers. L'affaire est immédiatement redirigée vers Scotland Yard. Les analyses médicales des victimes sont sans appel, elles ont été empoisonnées. L'armée est prévenue, des échantillons de sang sont envoyés au laboratoire militaire de Portadown. Une équipe des services de renseignement intérieur est déployée. Dans les jours qui suivent, 250 détectives sont mobilisés, plus de 4000 heures de vidéosurveillance sont passées au crime, 14 000 véhicules, 900 témoignages recueillis. Et malgré toute cette mobilisation, malgré la puissance de l'État britannique, l'enquête s'enlise.
Now, I need to hear from the public.
L'appel résonne. Et quelque part en Europe, il est entendu par quelqu'un que personne n'attendait. Pour les enquêteurs, à ce stade, l'attaque reste un mystère complet. Mais il y a déjà ce nom, Skripal. À leur domicile, les relevés effectués sur leur poignée de porte révèlent une intoxication par agent neurotoxique. Tous les lieux fréquentés par les victimes sont bouclés, et au bout de quelques mois, deux suspects sont identifiés. Deux Russes qui se sont volatilisés depuis. Mais malgré 6 mois d'enquête, malgré tous les moyens déployés, Scotland Yard s'enlise dans une enquête au point mort.
Appealing for anyone who has information about the suspects named by the Crown Prosecution Service today as Alexander Petrov and Ruslan Gosharov to contact the police.
Cet appel à l'aide résonne dans toute la Grande-Bretagne. Mais c'est à Vienne qu'il est entendu par un homme pas tout à fait destiné à faire ça. À 48 ans, Christo Grozev est un homme d'affaires à succès. Il possède de nombreuses parts dans des radios en Bulgarie, en Ukraine, en Russie, dans à peu près toute l'Europe de l'Est. Mais sa vraie obsession, c'est autre chose. Un truc qui le tient depuis 4 ans, depuis cet été 2014.
Good evening. The terrible reality is setting in tonight after Malaysia Airlines flight MH17 was blown out of the sky over Ukraine.
Not an accident or a disaster, but an act of terrorism. Those were the words of the Ukrainian president today.
Qui est responsable du crash du vol de la Malaysia Airlines dans l'est de l'Ukraine? S'agit-il d'un tir de missile?
I expect nothing from the Russian government.
Christo Grozev se passionne pour l'affaire du Malaysia Airlines 17. Depuis son ordinateur, il s'est mis à enquêter. Sur son blog, il publie des billets où il prend les arguments de chaque camp pour les démonter un par un. Il tire le maximum d'informations à partir de tout ce qui est librement accessible en ligne. Photos satellites, vidéos amateurs, posts de réseaux sociaux, bases de données publiques, tout ce que des millions de gens publient sans même y penser. Et que personne, jusque-là, ne s'était donné la peine de croiser. Très vite, il s'aperçoit qu'il n'est pas le seul à utiliser cette méthode. Un collectif est en train d'émerger sur la même affaire. Bellingcat. Avec sa communauté de bénévoles réunissant ingénieurs informatiques, experts ou journalistes, le groupe arrive à identifier l'engin qui a tiré le missile sur le MH17, sa trajectoire et même les militaires impliqués dans l'opération. Et toutes leurs déductions vont être confirmées par le rapport d'enquête officiel qui sortira un an après. Sans vraiment le réaliser, Grozev et Bellingcat sont en train de faire beaucoup plus que résoudre une enquête. Ils sont en train de populariser une méthode encore presque inconnue du grand public. L'OSINT. L'idée qu'à partir de traces ouvertes, de vidéos postées par hasard, de photos satellites, de publications Facebook, de bases de données oubliées, on puisse reconstituer ce que des États entiers cherchent à dissimuler. À partir de là, pour Christo Grozev, c'est décidé. Tout son temps libre, il le passera à faire de l'OSINT.
On the 14th of March, our Prime Minister said there is no alternative conclusion other than the Russian state was culpable for the attempted murder of Mr. Skripal and his daughter.
Sous les yeux de Christo, c'est tout l'appareil d'État britannique qui vient d'admettre son impuissance. Le Slack de Bellingcat est en ébullition. Les messages fusent. Christo Grozev laisse tomber tout ce qu'il fait et il se consacre à plein temps à son enquête, jusqu'à ce qu'il l'ait résolue. Mais avant de pouvoir commencer, lui aussi doit faire le point, reconstituer ce qui s'est passé en 6 mois à partir de ce que la police a bien voulu rendre public. Et autant le dire tout de suite, Scotland Yard est resté très discret. Depuis 6 mois, 4 personnes ont été victimes de ce mal mystérieux. Mais la première personne visée, c'était un certain Sergueï Skripal. Sergueï Skripal est un espion russe condamné en 2006 pour avoir vendu des informations au MI6. Il aurait dû finir sa vie dans un camp de travail en Mordovie, mais il a eu un coup de chance. Il est libéré à la faveur d'un échange d'espions entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Skripal, le traître à son pays, celui qui a dénoncé des centaines d'agents russes. Le Kremlin grince des dents, mais ils ne sont pas en position de force. 10 de leurs agents viennent d'être pris la main dans le sac. Skripal sort des prisons russes. Il obtient le pardon solennel de Medvedev. L'échange se fait à Vienne. Skripal quitte Vienne et rejoint Salisbury, où il espère couler une retraite paisible. L'autre point qui obsède Christo, c'est le poison. Quelle est cette substance qui a fait tomber Skripal et sa fille en quelques minutes? Cette même substance qui a envoyé un policier à l'hôpital simplement pour avoir franchi le seuil de leur maison. En remontant les premières heures de l'affaire, Christo découvre que les autorités elles-mêmes ont d'abord avancé à l'aveugle. Au début, personne ne trouve rien. Les communiqués officiels parlent juste d'agents neurotoxiques, comme si même les enquêteurs hésitaient à nommer ce qu'ils manipulent. Et puis, plusieurs semaines plus tard, c'est Porton Down qui finit par lâcher le morceau. Porton Down, c'est le laboratoire militaire britannique des armes chimiques, le seul centre du pays habilité à manipuler des substances de cette catégorie. Leur conclusion tombe. Le produit déposé sur la poignée de Skripal, c'est du Novichok, un des poisons les plus violents au monde, développé par l'URSS pour être indétectable par l'OTAN. Interdit par de nombreux traités internationaux, il est supposé avoir disparu depuis 30 ans. Sauf qu'il vient de réapparaître à Salisbury, au plein cœur du Royaume-Uni. Pour le gouvernement britannique, il n'y a pas beaucoup de place au doute.
The government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal.
Ну, а что касается в целом, ну и, конечно, думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс.
Le Kremlin nie tout en bloc. Skripal était un espion essoré. Quel intérêt aurait la Russie à l'assassiner? Dans les semaines qui suivent, les théories pleuvent. Skripal aurait des liens avec un ancien espion britannique qui avait fait scandale en accusant Donald Trump, alors fraîchement élu président, d'être compromis par le Kremlin dans un dossier ayant fait le tour du monde. Et si Skripal avait trempé dans ce fameux dossier? Et si on l'avait fait taire, non pas comme un vieux traître, mais pour ce qu'il savait sur Trump et la Russie? Pour Christo, quelque chose n'est pas clair.
When you have a nerve agent or whatever, you check it against certain samples that you retain in your laboratories.
Un ambassadeur russe explique sur les plateaux que le Novichok existe aussi dans des laboratoires américains et britanniques. 41 labos au total.
And Porton Down, as we now all know, is the largest military facility in the United Kingdom that has been dealing with chemical weapons research. And it's actually only 8 miles from Salisbury.
You're not suggesting that Porton Down is responsible for this nerve agent?
I don't know. I don't have any evidence of anything having been used.
Il dénonce une paranoïa anti-russe. Et pour ajouter à la confusion, Porton Down lui-même, le laboratoire qui vient d'identifier le Novichok, contredit Boris Johnson en direct et dit n'avoir apporté aucune preuve que le poison a été fabriqué en Russie.
The evidence for culpability points to the Russians.
It sounds to me like it would be Russia.
Ну и конечно, думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс.
I don't think that it's the government.
The government has concluded that Russia was responsible.
I mean, the people from Porton Down, they were absolutely categorical, and he said there's no doubt.
We have not verified the precise source.
Qui sont les assassins de Skripal? Est-ce vraiment le Kremlin derrière cette affaire? Et si oui, comment ont-ils réussi un tel empoisonnement en plein cœur du Royaume-Uni? Ce film a pu voir le jour grâce au soutien de notre sponsor, UBG. UBG, c'est une boîte française qui propose des eSIM dans plus de 200 destinations. Qui vous fera économiser jusqu'à 90% sur les frais d'itinérance. Le principe est simple, vous installez l'eSIM et l'activez dans vos paramètres avant de partir et à la seconde où vous atterrissez ou vous passez la frontière en train, ça se connecte tout seul au réseau du pays. Et ça fonctionne en parallèle de votre SIM pour garder WhatsApp. Le truc sympa, c'est que ce sont les seuls qui vous permettent de recharger alors même que vous n'avez plus aucune donnée restante. Je vous mets le lien en description. Et avec le code MICODE, vous avez 10% de réduction pour vos prochaines vacances. Merci à UBG de soutenir notre travail. Et on reprend.
I'm therefore appealing for anyone who has information about the suspects named by the Crown Prosecution, Alexander Petrov and Ruslan Bosharov, to contact the police.
La seule piste solide que Scotland Yard donne, c'est ça. Deux photos. Deux noms incomplets. Alexandre Petrov et Ruslan Bosharov. Deux Russes entrés en Angleterre le 2 mars 2018, repartis le 4, le jour même de l'empoisonnement. Mais c'est tout. Des images floues et deux noms incomplets. Incomplets parce que, en Russie, une identité complète ne s'arrête pas au prénom et au nom de famille. Entre les deux, il y a le patronyme. Le prénom du père, suivi de Vitch pour un homme, le prénom de la mère est Vna pour une femme. C'est lui qui permet de distinguer, dans un pays de 140 millions d'habitants, deux personnes qui porteraient le même prénom et le même nom de famille. Et justement, c'est ce patronyme qui manque. Scotland Yard n'a publié que Alexandre Petrov et Ruslan Bochirov. Pas de patronyme, pas de coordonnées, pas d'historique. Et les deux hommes sont déjà rentrés en Russie. Identifier qui se cache derrière ces deux visages flous, sans dossier d'enquête, sans mandat, sans la moindre coopération russe, et démasquer derrière eux une prétendue opération des services secrets au cœur du Royaume-Uni, ça paraît peut-être impossible. Mais pour Christo Grozev, ça ne l'est pas. Christo commence par le plus simple. Mais sur ces deux noms, rien. Juste un compte Facebook qui pourrait appartenir à n'importe qui. À ce stade, la seule chose que Christo et Bellingcat peuvent dire de manière sûre, c'est que Bochirov et Petrov ont fait un aller-retour Moscou-Angleterre entre le 2 et le 4 mars 2018 en avion. Une info qui, pour le commun des mortels, paraîtrait anodine, mais ce genre de détail, Christo sait exactement quoi en faire. Parce que s'ils ont pris l'avion, ils sont forcément inscrits quelque part, sur un document que toutes les compagnies aériennes sont obligées de tenir. Le manifeste de vol. La liste de tous les passagers d'un vol, avec pour chacun nom, prénom, date de naissance et numéro de passeport. Pour Christo Grozev, ce serait une mine d'or. Évidemment, un document pareil n'est pas en accès libre. Il lui faudrait un mandat pour l'obtenir légalement. Mais ça, Grozev sait très bien qu'il n'en aura pas besoin. Parce qu'il y a une chose qu'il a appris au fil de ses enquêtes. En Russie, les données les plus sensibles sont souvent beaucoup plus accessibles qu'on ne le pense. Comme certains journalistes aiment le dire, la Russie est très transparente. L'État russe est obsédé par le contrôle de ses citoyens. Tout est numérisé, tout est centralisé. Passeport, carte d'identité, plaque d'immatriculation, dossiers médicaux, tout y est. Sauf que la corruption ronge chaque étage de l'administration. Et il y a toujours quelque part un fonctionnaire sous-payé prêt à revendre le morceau de base de données qui passe entre ses mains. Ces fuites alimentent un marché clandestin, le ProBiv, une sorte d'Amazon de la donnée volée où des bases entières s'achètent et se revendent comme des paires de baskets. Un peu d'argent, Yandex, le Google russe, un minimum de savoir-faire et les portes s'ouvrent. Christo et toute son équipe de Bellingcat s'associent à des journalistes russes. Ensemble, ils plongent dans les leaks des compagnies aériennes effectuant Moscou-Gatwick. Et ils finissent par tomber dessus. Petrov et Bochirov. Cette liste leur donne déjà plusieurs données qu'ils n'avaient pas. Leur nom complet, patronyme compris, leur date de naissance, leurs données de réservation et leur numéro de passeport. Ces données n'ont l'air de rien comme ça. Elles ne rendent pas les deux hommes plus suspects et elles ne lui apprennent rien de particulier sur leur profil. Mais c'est ce qu'on appelle en OSINT des données pivots. Chacune est une nouvelle piste, un nouveau point de départ stratégique pour de nouvelles recherches. Elle n'a pas de valeur en soi, mais ouvre tout un tas de nouvelles pistes. Et en fait, si vous avez bien regardé, il y a peut-être déjà un truc qui a pu vous paraître bizarre dans ces données. Alors, si ça peut vous rassurer, Christo a avoué qu'il leur a fallu plusieurs heures pour le voir. Regardez par ici. 12-94. 12-97. Le truc bizarre, c'est ça. Les numéros de passeport. Ils ne sont espacés que de 3 unités. Pour un pays de 140 millions d'habitants, c'est statistiquement presque impossible. Même si, par le plus grand des hasards, ils auraient demandé le passeport le même jour.
Мы знаем, кто они такие уже. Мы их нашли. Ну, надеюсь, что они сами появятся и сами себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас. Но посмотрим дальше.
Где вы ходите в этих уже знаменитых пуховиках, кроссовочках, по Солсбери? Это вы.
Да. Да, это мы.
Что вы там делали?
Там есть знаменитый собор. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами.
Armé des numéros de passeport et des dates de naissance, Christo peut enfin remonter plus loin, jusqu'au dossier d'identité officiel des deux hommes. Ce que l'État russe conserve sur chacun de ses citoyens et qui, eux aussi, ont fini par fuiter. Et ils finissent par tomber dessus. Petrov et Boshirov. Et à nouveau, ce qu'ils trouvent enfonce le clou. Aucun des deux n'a le moindre document d'identité antérieur à 2008. Or, en Russie, la carte d'identité est obligatoire dès 14 ans. Deux hommes de plus de 30 ans devraient traîner 20 ans de paperasse derrière eux. Eux, c'est comme s'ils étaient nés administrativement du jour au lendemain. Une note griffonnée mentionne bien un document plus ancien, émis à Saint-Pétersbourg. Mais ce document-là est introuvable. Sur ce même dossier, un tampon indique ne communiquer aucune information sur cette personne. À côté, écrit à la main, il y a d'autres informations SS. SS en russe, c'est Sovertcheno Sekretno. Top secret. Mis bout à bout, ça ne laisse plus vraiment de place au doute pour Grossev. Petrov et Boshirov n'existent pas. Ce sont deux coquilles vides, deux identités fabriquées de toutes pièces et soigneusement protégées par le Kremlin. Mais en avoir l'intuition et le prouver, ce sont deux choses différentes. Pour l'instant, Christo n'a entre les mains que deux fantômes, deux noms qui ne mènent à rien, deux visages flous. Rien que Moscou ne puisse balayer d'un haussement d'épaule. Pour les démasquer vraiment, il va devoir trouver ce que le Kremlin s'est donné tant de mal à effacer. De vrais visages, de vrais noms et surtout un lien direct avec Moscou. Pour Christo et son équipe, il faut chercher d'autres données à partir desquelles pivoter. Et il va falloir aller les chercher ailleurs, là où ils n'ont pas encore mis leur nez. Ils vont devoir utiliser un outil assez dingue en Russie. Un outil fait pour retrouver n'importe qui. Probivem. C'est une plateforme en ligne qui fouille en simultané toutes les bases du Probiv. On tape un nom, un numéro de téléphone, une plaque d'immatriculation et il remonte d'un coup tout ce qui existe sur la personne à travers les leaks accumulés au fil des années. Rien de très légal en somme. Christo lance Probivem sur Petrov et Boshirov et la machine crache une longue liste d'adresses associées aux deux noms. Sauf que c'est précisément là que le piège se referme. Adresse après adresse, il contacte les habitants, les voisins, les propriétaires. Et à chaque fois, c'est la même réponse. Non, jamais entendu parler de Petrov et Boshirov. Toutes les adresses sont des leurres. Pour n'importe quelle personne cherchant à effacer ses traces, polluer les bases de données, inventer des adresses bidons, ça ne coûte presque rien. Mais pour Christo et son équipe, vérifier que ces adresses sont effectivement fausses, c'est l'enfer. Aucun moyen de l'automatiser. Il faut aller voir sur place ou appeler. Des dizaines d'heures à confirmer ce qu'ils soupçonnaient déjà et un message glissé en filigrane par Moscou. À vous de jouer, à vos frais. Heureusement, une donnée précieuse a quand même filtré. Leur passage de frontière. Trois voyages au Royaume-Uni, trois aux Pays-Bas et sept en Suisse. Depuis 2014, ils ont voyagé dans plus de 10 pays différents. Rien que sur l'année 2017, ils sont venus 5 fois en France. Si Londres dit vrai, si ces deux-là sont des agents, alors ce ne sont pas des agents quelconques. Ils voyagent partout, en permanence, dans le plus grand secret. Christo le sait, on est dans le haut du panier, des espions d'élite. Or, les espions d'élite, Grossev le sait très bien, ça ne se recrute pas n'importe où, ça se forme dans une école d'élite. S'ils sont passés par l'une d'elles, ils ont forcément laissé une trace. Une photo de promo, un visage au fond d'un trombinoscope, un cliché de cérémonie oublié sur le mur d'un ancien camarade. Si Christo veut des visages, il faut aller les chercher là où ils circulent vraiment. Dans les réseaux d'anciens élèves, des groupes Facebook semi-fermés, des chats Telegram de camarades de promo. Avec son équipe, ils épluchent soigneusement les annuaires et collectent les photos de réunions d'anciens élèves diplômés des écoles militaires les plus réputées. Ils passent des nuits blanches à chercher, mais ils ne trouvent rien. L'équipe commence à douter. Peut-être que les photos ont été nettoyées, supprimées une à une avant même qu'ils n'arrivent. Peut-être que la piste n'est pas la bonne, mais c'est la seule qu'ils ont. Ils ne peuvent pas se permettre de l'abandonner. Alors ils continuent. Une nuit de plus, une promotion de plus, une photo de plus. Et puis, un soir, sur un cliché qu'ils ont sans doute déjà parcouru 10 fois sans le voir, un visage accroche l'œil de Christo. Pixelisé, pris de 3/4, la résolution est mauvaise. Mais cette mâchoire, ces sourcils, cette implantation des cheveux, ça ressemble vaguement à Boshirov. C'est une photo de promotion de l'Académie militaire d'Extrême-Orient, aussi appelée la Dvoku, une des plus prestigieuses du pays. C'est pas grand-chose, mais c'est leur seule piste. Sur la légende, pas de nom, juste 2 indications. Ce sont d'anciens élèves de la Dvoku, en mission en Tchétchénie, et parmi cette promotion, 7 officiers ont reçu le titre de « Héros de la Russie », la plus haute distinction militaire du pays. Grozev essaye la combinaison Dvoku, Tchétchénie, héros de la Russie. Et l'équipe identifie comme ça plusieurs noms d'anciens officiers de la Dvoku. Mais quand ils cherchent des photos de ces officiers, aucun ne ressemble à Boshirov. En fait, il n'y en a qu'un dont ils ne savent pas s'il ressemble à Boshirov. Parce qu'ils ne trouvent tout simplement pas de photos de lui. C'est le seul qui n'a pas de photo lors de sa remise de décoration. À ce stade de l'enquête, ça n'est forcément plus un hasard. Grozev le sait, il a mis le doigt sur quelque chose. La seule information qu'ils ont, c'est un nom. Anatoli Chepiga. Impossible de trouver la moindre photo de lui. Alors, toute l'équipe s'y met. Ils cherchent jour et nuit la trace de ce Chepiga. Jusqu'à ce que, dans un des leaks que l'équipe a récupéré, il trouve un dossier de passeport au même nom. Et dans ce dossier, une magnifique photo d'identité. Toute l'équipe de Grozev exalte. Ils l'ont trouvé. Boshirov, un des suspects numéro 1, est un colonel du GRU. Un espion russe. Eux, enquêteurs amateurs, qui démasquent un des plus grands services de renseignement au monde. Évidemment, ils s'empressent de publier un article. Un article public, visible par le monde entier. C'est beaucoup trop tôt. S'ils ont bien trouvé l'identité d'un des suspects, ils n'ont encore rien qui le relie à l'assassinat. Et pas non plus l'identité du deuxième. Ils n'ont en fait qu'une date, celle à laquelle les 2 suspects étaient sur place. Mais une date, ça n'est pas une preuve. Tout ce que Christo sait, c'est qu'un colonel des services secrets russes était visiblement sur place au moment de la tentative d'assassinat. Pour l'instant, il est beaucoup trop facile pour les Russes de balayer d'un revers de main tout leur travail.
Я просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там в Великобритании. Что за бред? Это что такое?
Une ressemblance non plus à leurs yeux, ça n'est pas une preuve. Sauf que ils viennent de publier un article public, visible par le monde entier. Le Kremlin se sait menacé. Toutes les traces sont effacées. L'arsenal qui a mené Christo jusqu'à Chepiga, tout est en train de se refermer devant ses yeux. Il reste pourtant toujours un trou béant dans son enquête. Petrov. Toute l'équipe a cherché à recouper les nouvelles infos liées à Chepiga, mais rien. Pour la plupart des gens, c'est ici qu'on s'arrête. Mais pas pour Christo Grozev. Il tourne en boucle sur Petrov. Il pense à toutes les enquêtes menées au fil des années, et à une en particulier.
Russia has categorically denied any involvement in an alleged plot to assassinate Montenegrin Prime Minister Milo Djukanovic.
À l'époque, le groupe Bellingcat avait identifié un officier du GRU sous couverture, un certain Shirokov, qui s'appelait en réalité Edward Shishmakov. Et le truc dingue avec Shishmakov, c'est que pour fabriquer sa fausse identité, le GRU s'était contenté de changer son nom de famille. Le prénom, le patronyme et la date de naissance étaient restés identiques. Une couverture paresseuse. Peut-être une signature. Et si le GRU avait fait pareil avec Petrov? Il passe au crible toutes les bases de données, tous les leaks, tout ce qu'ils ont accumulé depuis des mois d'enquête, à la recherche d'une correspondance. Mais plus rien ne remonte, aucune trace. À cet instant précis, Christo réalise ce qui est en train de se passer. Il réalise que toutes les pistes directes qui lui manquent ont peut-être disparu, que tout a sans doute été effacé. Si rien ne remonte directement sur les données d'identité, peut-être que les Russes n'ont pas tout effacé sur le reste. Résident de Saint-Pétersbourg, propriétaire de véhicules, abonnement téléphonique, tout y passe. Et après de longues nuits de recherche, Grozev trouve enfin un unique match. Alexandre Yevgenievitch Mishkin. Parmi toutes les infos qui remontent, une seule aura son importance. Il a enregistré sa voiture au 76B Khoroshevskoy Shoss, le QG du GRU. Pour Christo, l'affaire est pliée. Petrov est Mishkin. Sauf qu'il a déjà vu ce film. Avec Chepiga, ils étaient sûrs aussi, et le Kremlin avait tout balayé d'un revers de main. Une ressemblance, un indice, une voiture, ça ne suffira pas. Il faut aussi un visage. Le verrouillage des données a bien fait son œuvre. Les fichiers de passeport ne sont plus accessibles, les sources habituelles se taisent et certains leaks ont même été pollués. Des milliers de faux documents qui associent les bons noms aux mauvaises photos pour brouiller les pistes. Alors Christo creuse. Il remonte jusqu'aux anciens colloques de Mishkin, contacte des centaines d'anciens élèves de l'Académie militaire de médecine et finit par obtenir de l'assureur de la voiture un scan des pages du passeport d'Alexandre Mishkin. Cette fois, il fait faire une reconnaissance faciale et une analyse médico-légale par un professeur de l'université de Bradford. Score 90%. Le nez, les yeux, les deux boutons sur le menton, tout concorde. Alexandre Petrov est Alexandre Mishkin, médecin militaire au GRU. Et ça, ça n'est pas un détail. Sur chaque opération d'empoisonnement, le GRU envoie un médecin militaire avec l'équipe. Au cas où ça tourne mal, au cas où il y a un pépin, un agent contaminé, un produit qui fuit. Mishkin n'était pas à Salisbury par hasard. Sa présence à elle seule, c'est une signature. C'est l'aveu opérationnel d'un empoisonnement orchestré par le GRU. Le 26 septembre 2018, Bellingcat publie un nouvel article. Le visage de Chepiga, puis celui de Mishkin, font le tour du monde en quelques heures. Ces espions que le GRU voulait garder secrets sont vus par le monde entier. Et c'est là que quelque chose d'inattendu se produit. De nouveaux éléments affluent en masse. Et l'enquête prend un tournant sans précédent. Dans le monde entier, des gens reconnaissent ces visages. Des journalistes, des sources, des dissidents, ils les ont vus quelque part. À un congrès, à un aéroport, la veille d'un meeting politique. Et à mesure que les pièces tombent, un dessin se forme. Genève 2016. Les deux mêmes hommes repérés près des bureaux de l'Agence mondiale antidopage. Pile au moment où la Russie est sanctionnée pour son dopage d'État. Sofia 2015. Un marchand d'armes bulgare qui vendait à l'Ukraine échappe de justesse à un empoisonnement. Podgorica 2016. Un coup d'État raté au Monténégro pour empêcher l'adhésion à l'OTAN. Catalogne, République tchèque, Pays-Bas, France. Ça n'est plus une affaire, c'est un réseau. Des sources au sein des services de renseignement européens finissent par mettre un nom dessus. L'unité 29155. Nos deux espions font partie des Black Ops du GRU. Une trentaine d'hommes triés sur le volet qui ont pour mission d'exécuter les pires opérations du Kremlin partout en Occident. L'unité la plus secrète du service de renseignement militaire le plus opaque au monde vient d'être démasquée, cartographiée, archivée par une bande d'Ozinters sur Slack. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir un onglet pour consulter la liste des opérations attribuées à l'unité 29155. Leurs noms, leurs photos et tous leurs déplacements en Suisse, en Bulgarie, en Espagne. Et parmi leurs trentaine de membres, Christo et son équipe en ont identifié 23. On peut même feuilleter en accès libre le mariage de la fille de leur commandant. Et devinez qui pose en uniforme à côté de la mariée ? Le colonel Anatoli Chepiga, héros de la Russie, l'homme qui a déposé du Novichok sur la porte de Sergueï Skripal. Cette histoire est un hommage à ceux qui pratiquent l'OSINT, à l'investigation citoyenne et à son pouvoir. Pendant des décennies, la règle du jeu était simple. Les États surveillent les citoyens. Aujourd'hui, depuis un canapé avec un ordinateur portable et un peu de méthode, ce sont certains citoyens qui surveillent les États. Les outils sont là, les méthodes sont publiques, les données existent, et vous aussi, là, maintenant, il vous suffirait d'ouvrir un onglet.